Mon Dieu ne mit au cœur de rassembler les nobles et
Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu veux nous conduire aussi dans le détail, dans les décisions que nous devons prendre, et nous voudrions le faire dans l'harmonie et dans la justice et qui doit nous caractériser en toutes choses. Que ta bénédiction maintenant repose sur nous et que nous puissions apprendre quelque chose dans ces derniers moments, dans ton amour. Amen.
Eh bien, ce que le Seigneur m'a montré pendant que je faisais ma petite course là-haut, c'est que nous allions vraiment nous mettre à l'école d'Esdras et de Néhémie pour cette dernière rencontre. C'est-à-dire, nous allons faire la lecture et puis les explications au fur et à mesure, puisque plusieurs ont demandé qu'on arrive quand même jusqu'au 13e chapitre, que je n'avais pas pensé d'abord, eh bien, nous allons le faire, mais en nous inspirant de ces chapitres, et nous ne sortirons pas de là, et si vous, vous avez des choses à dire, vous les direz, et spécialement encore cet après-midi. Alors, vous avez, je pense, pu lire déjà ces quelques chapitres? Bien, vous savez, les relire, c'est toujours une bénédiction. Et c'est comme cela qu'on progresse. Et l'apôtre Paul aimait à dire, vous redire les mêmes choses, cela n'est pas pénible. Alors, dans le chapitre 7e, avec lequel nous avons terminé hier notre étude, donc, sur les murailles et leur emplacement, qui était le 3e volet de cette série sur les caractères d'un vrai réveil spirituel, bien, nous avons terminé en constatant que Néhémie nous dit que l'Éternel lui avait mis à cœur. C'est quelque chose qui est très beau. C'est le Seigneur qui lui avait mis à cœur, au chapitre 7, verset 5, Mon Dieu me mit au cœur de rassembler les nobles et les chefs et le peuple pour les enregistrer par généalogie. Vous voyez que c'est un dénombrement tout à fait différent de quel dénombrement? De celui de David. David, eh bien, il a eu à cœur de faire quelque chose, mais ce n'était pas le Seigneur qui lui avait mis à cœur, c'était Satan. Dans quel but? Il voulait savoir sur combien de personnes il régnait. C'était donc l'orgueil. Vous comprenez? Alors, tandis que dans les langues, c'était Dieu qui avait demandé à Moïse de faire le dénombrement. Alors, on ne doit pas se dire, ben voilà, puisque Dieu a demandé de faire le dénombrement, moi maintenant je m'en vais faire un dénombrement. Non. C'était cela, le péché de David. Mais ici, on voit qu'il faut organiser maintenant que les murailles sont reconstruites, la vie peut commencer pour le peuple. Alors, le Seigneur met à cœur à Néhémie de faire cet enregistrement. Mais il va se servir de l'enregistrement qui a été fait dans le livre d'Esdras. Et c'est pour ça que vous retrouvez au fond tout ce qui a été déjà vu dans le livre d'Esdras dans le chapitre 7. Et alors, une fois que cela a été fait, il arriva le 7e mois que les fils d'Israël étaient dans leur ville. Leur ville, qui était Jérusalem, et les villes avoisinantes. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant
la porte des eaux. Et je vous ai montré là, hier soir, où se trouvait l'emplacement de la porte des eaux. Là, il y avait de la place. Et dans ces chapitres 8 à 10 que nous allons lire maintenant, eh bien, nous voyons l'état religieux du peuple, et spécialement au chapitre 8, le renouvellement de l'alliance par le ministère d'Esdras et le réveil spirituel qui s'est produit par la lecture de la loi. Alors nous allons faire cette lecture. Donc tout le peuple se rassembla comme un seul homme. Donc il y a unité. Ils sont tous d'accord pour se rassembler. Ils ont travaillé chacun devant leur propre maison, mais maintenant c'est un rassemblement complet. Tous sont là. Et ils dirent à Esdras. Esdras était là depuis 13 ans. Et évidemment, son ministère jusqu'à ce moment-là, eh bien, il n'avait pas pu l'accomplir peut-être comme il l'aurait voulu. Vous avez vu ce qu'il a fait dans le dernier chapitre de son livre. Il a exhorté, il a demandé au peuple de revenir à l'obéissance à la parole. Il a été suivi dans une certaine mesure, mais de nouveau, eh bien, le peuple était retombé et Esdras n'a pas pu faire grand-chose. Mais maintenant que les murailles sont reconstruites, eh bien, le temps est plus favorable et Néhémie est là, le gouverneur, et il demande à Esdras de faire cette lecture de la loi. Ils dirent à Esdras, le scribe, et c'est un scribe remarquable, le caractère d'Esdras, vous l'avez au chapitre 7, il est dit de lui au chapitre 7 d'Esdras, verset 6, Esdras était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et au verset 10 du même chapitre 7, cet Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, à la faire et à enseigner en Israël ses statuts et ses ordonnances. Voilà ce qui caractérisait Esdras, un scribe fidèle qui ne s'écartait pas de l'enseignement de la loi de Moïse. Alors, c'est lui qui est chargé d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes. Les femmes y sont aussi. Et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. C'est-à-dire qu'il y avait les enfants en âge de responsabilité, ceux qui étaient capables de comprendre. Et il y lut devant la place, qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui avaient de l'intelligence. Comment a traduit second, là? Le mot intelligent, capable de l'entendre, oui, bien, c'est-à-dire des gens qui ont atteint quand même l'âge de raison, même s'ils sont des jeunes. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi, parce que il est question de prêter l'oreille. Prenez garde à la manière dont vous écouter, parce qu'on peut être tout ailleurs, on peut être physiquement dans un lieu, hein, et puis nos pensées tout ailleurs. Et il faut vraiment la grâce de Dieu, et puis là encore, c'est l'action de Dieu. Quand vous pensez à Actes chapitre 16, l'histoire de Paul qui arrive en Macédoine, la première ville d'Europe qui a été évangélisée, il est dit qu'il a trouvé quelques femmes seulement, hein, dont une qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle s'appelait Lydie. Et il est dit que Dieu lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Donc vous voyez, pour qu'on écoute dans une réunion, il faut encore l'action de Dieu. Parce que nos pensées vont ailleurs. Hein. Il faut vraiment l'action de Dieu. Alors, Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion. C'est assez intéressant de voir cela. Hein. Parce que pourquoi est-ce qu'on avait mis une estrade pour Esdras? Pour que tout le monde le voit, n'est-ce pas? Pas pour qu'on le montre, mais que tout le monde le voit et puisse l'entendre et suivre aussi sur les lèvres les paroles qu'il disait. Et autour de lui, Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkija, Machéa se tenaient à côté de lui à sa droite. Et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkija et Hashum et Asbad, Dana, Zacharie et Meshulam. Donc, les anciens d'Israël étaient à côté et manifestaient qu'ils étaient d'accord avec Esdras. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Pourquoi ? Par respect, hein, d'abord. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen ». C'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. Chaque fois, on a demandé à Dieu sa bénédiction avant de faire la lecture. Et je veux bien croire que dans vos cœurs ou sur vos lèvres, il y a eu aussi un « Amen ». Vous étiez d'accord. En élevant les mains, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ce n'est pas toujours nécessaire de faire toutes ces manifestations extérieures, mais si vous en avez vraiment le cœur, vous pouvez le faire. Hein. Ce n'est pas interdit. Mais ce que nous n'aimons pas, c'est la manipulation. Je ne dis pas lever les mains maintenant, alors tout le monde doit lever les mains. Quand j'entends ça, qu'on nous dit qu'il faut lever les mains, eh bien, je ne suis pas toujours disposé à le faire. Mais si je veux le faire, je le fais. Mais on ne me manipulera pas. Parce qu'on peut faire toutes sortes de gestes, et puis, c'est dans nos cœurs qu'il faut être prosterné d'abord. Hein. Et le peuple se tenait à sa place. Et alors, il y avait là les Lévites, verset 7, qui faisaient comprendre la loi au peuple. Donc, Esdras lisait, il y avait certainement des interruptions, et les Lévites, dont les groupes, instruisaient le peuple, faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple se tenait à sa place. Et il lisait comment? Comment ça vous avez dit? Distinctement, n'est-ce pas? Alors voilà, quand vous lisez et que les autres doivent écouter, il faut lire distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient connaître lorsqu'on lisait. Hein. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Et Néhémie était le Tirzata, c'est-à-dire le gouverneur, et Esdras, le sacrificateur, le scribe et les lévites qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on lisait, dire à tout le peuple, « Ce jour est saint à l'Éternel votre Dieu. Ne menez pas d'œil et ne pleurez pas. » Voyez-vous, quand on lit la parole et qu'elle nous reprend, nous serions peut-être toujours plutôt dans l'affliction. Mais il faut aussi comprendre que la parole de Dieu doit nous donner de la joie, et que même si elle souligne des péchés que nous avons, le Seigneur est le sauveur des pécheurs. Et il est venu pour régler la question du péché. Et nous ne devons pas rester avec le nez sur nos péchés. Une fois que nous les avons confessés, nous devons nous réjouir dans le pardon de Dieu. car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Mais pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas mis en pratique cette loi. Ils n'avaient pas vécu selon cette loi. Alors il y avait une telle tristesse qu'à un moment donné, Néhémie leur dit, mais non, mais vous n'allez pas rester dans la tristesse. Le Seigneur ne nous humilie pas seulement pour que nous soyons, nous restions dans la tristesse, mais il veut nous donner de la joie. Allez manger ce qui est gras, buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Donc, en quelque sorte, oubliez-vous vous-même, pensez aux autres. Hein? Ne vous affligez pas, et c'est un beau verset que vous pouvez souligner, ça, hein. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Il vous a montré vos péchés, mais pas pour que vous restiez sur vos péchés, mais pour que vous les quittiez et puis que vous saisissiez la joie du Seigneur. Vous devez rester dans la joie. La parole de Dieu n'est pas faite pour nous déprimer, mais pour nous renouveler, pour nous restaurer. Parce qu'il y a des gens, justement, qui, quand ils lisent la parole, ils disent qu'ils sont déprimés. Mais la parole vous montre votre tort, hein, vous le confessez, et puis vous saisissez la joie du Seigneur. Le Seigneur ne nous afflige pas volontiers. C'est toujours pour nous réjouir. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple. Et moi, je crois que Dieu me donne de plus en plus ce ministère de tranquilliser les âmes. Vous avez trop été sous la culpabilisation. On a culpabilisé les âmes au Québec pendant longtemps. Hein. Eh bien, le Seigneur voudrait vous déculpabiliser. Jésus est venu et il a été le coupable pour tous les coupable. Alors, vous, maintenant, libérez de cette culpabilité, vous allez vous réjouir et vous montrerez un heureux visage au peuple qui, lui encore, ne connaît pas le Seigneur. Les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint et ne vous affligez pas. Parce que, vous savez, en Orient, hein, quand on se lamente, ça s'entend. Ça s'entend. Alors, tout le monde était affligé. Alors, comment voulez-vous que on les croit heureux? Si vous êtes toujours dans l'affliction, soyez réjouis et louez le Seigneur. Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire. Vous voyez, c'est vivable le christianisme aussi et la parole de Dieu. Il y a des moments où il faut savoir manger et boire. Pas prendre une indigestion, ni nous enivrer, c'est pas cela, hein. Mais on peut manger et boire. Et pour envoyer des portions, quand on est bien disposé, on a à cœur de donner à d'autres. Il y en a toujours qui sont dans le besoin. Et pour faire de grandes réjouissances, est-ce que nous savons nous réjouir? Il faut aussi savoir se réjouir. Il faut savoir pleurer avec ceux qui pleurent, mais il faut aussi savoir se réjouir. Il faut savoir être dans la pénurie, mais il faut savoir être aussi dans l'abondance. Parce que nous avons un Dieu qui est équilibré et qui nous fait passer par différentes phases. Mais l'apôtre Paul dit, je sais ou j'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. C'est un apprentissage. Car ils étaient dans de grandes réjouissances. Pourquoi? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Vous trouvez pas que c'est beau, ça? Ils avaient compris. Parce qu'il y en a qui comprennent pas. Eh bien, un jour, on comprend. Tout à coup, on comprend. Vous le chantez, je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Tout à coup, ça y est. C'est fait. Et alors, vous vous réjouissez. Et le second jour, les chefs des pères et tout le peuple, les sacrificateurs, les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, et cela pour devenir stupide. C'est ça votre version révisée? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Bien, vous savez qu'il est dit cela, vous vous rassemblez pour votre détriment. Hein, on peut se rassembler pour notre détriment, mais nous ne devons pas avoir des assemblées. Et si c'était cela ici que nous vivons, ça ne vaudrait pas la peine de continuer. Hein. Mais nous nous rassemblons pour devenir intelligents dans les paroles de la loi. C'est mon seul but, que vous n'ayez plus besoin de moi, parce que moi je suis un homme qui passe, mais que vous ayez cette parole de la loi, et que vous ayez la parole de Dieu, que vous soyez intelligent dans cette parole, que vous n'ayez plus besoin des autres, mais que vous puissiez être une aide pour les autres. Et alors, c'est cela que je trouve tellement beau dans ce livre d'Esdras, ils trouvèrent écrit. Quand on lit, on fait des découvertes. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait commandé par Moïse que les fils d'Israël devaient habiter dans les tabernacles pendant les fêtes du septième mois et qu'ils devaient faire entendre et faire passer une proclamation dans toutes les villes et à Jérusalem disant « Sortez dans les montagnes » et apporter des branches d'olivier et des branches d'olivier sauvage et des branches de myrte et des branches de palmier et des branches d'arbres touffus pour faire des tabernacles, c'est-à-dire des huttes, n'est-ce pas, des cabanes, comme il est écrit. C'était Dieu qui avait commandé cela pour que Israël se souvienne qu'autrefois ils avaient traversé le désert et qu'ils étaient sous des tentes. Et alors ils célébraient cette fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et j'ai été plusieurs fois à Jérusalem à ce moment de l'année, qui est le mois d'octobre, où on célèbre cette fête des tentes et l'on voit même sur les toits des maisons des Juifs qui ont pris des branches de palmiers, c'est des cabanes, et puis ils enseignent ça à leurs enfants, et les enfants peuvent coucher dans une cabane, hein, s'il fait assez chaud. Et le peuple sortit, et on apporta donc des branches, et ils se firent des tabernacles ou des cabanes, hein, chacun sur son toit. Vous voyez, et l'on remarque là à Jérusalem encore aujourd'hui ces choses-là, on suit la parole et dans leur cour, c'est vrai aussi dans leur cour et dans les parvis de la maison de Dieu et sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Et toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes, des tabernacles. Et ils habitèrent dans ces tabernacles pendant ces quelques jours. Car les fils d'Israël n'avaient pas fait cela depuis quand? Depuis les jours de Josué. Vous voyez, on avait complètement abandonné cette pratique qui était une occasion de réjouissance et qui enseignait quelque chose aux enfants. N'est-ce pas? Alors, maintenant qu'ils étaient revenus de la captivité, eh bien, ils comprenaient qu'ils pouvaient le faire comme on l'avait fait au début, après la sortie du désert et après le long exil en Égypte. C'était donc, ils ne l'avaient pas fait depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Une très grande joie, hein, des réjouissances, une très grande joie, parce que le peuple du Seigneur doit être aussi un peuple joyeux. Paul l'a dit, soyez toujours joyeux. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, c'était donc une fête vraiment spirituel, chaque jour, ces 7 jours là, on a lu dans la loi de Dieu, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Donc on s'en imprégnait de cette loi de Dieu. Et ils célébraient la fête 7 jours, et au 8e jour, il y eut une assemblée solennelle selon l'ordonnance. Alors, tout cela, il faudrait lire le Pentateuque pour retrouver ces choses. Mais eux lisaient dans le Pentateuque.
Alors, nous arrivons maintenant au chapitre 9e, où l'on voit l'effet de la parole qui a été lue. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent, alors avec jeûne. Il y a un moment où l'on mange et où l'on boit, mais il y a un moment aussi où l'on peut se priver de nourriture et jeûner pour... Parce que quand on a jeûné, qu'est-ce qui nous arrive? Il ne faut pas jeûner en vue de mériter quelque chose. Le jeûne, c'est pour nous. Quand je jeûne, j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Tandis que quand je mange trop, j'ai envie d'y dormir. Hein? Bon. Et c'est pourquoi, avant les réunions, il faut veiller de ne pas trop manger. Parce que ça, vous taperez les clous. C'est inévitable, hein? D'accord? Non, mais ça branlera. Bien, vous devrez vous pincer pour... Bien, si c'est une prédication sur Jonas, qui on veut dire, réveille-toi, toi qui dors. Quoi? Vous croyez que c'est à vous qu'on s'adresse? C'est arrivé, ça, oui. Mais je sais qu'il y en a qui dorment. L'autre jour, un ami m'a dit, moi, évidemment, je suis trop fatigué, alors je dors dans les réunions. Puis quand le pasteur me dit, parce qu'il s'est aperçu, évidemment, que qu'il avait un auditeur qui dormait, même s'il était un ancien. Alors, le pasteur lui dit, alors comment as-tu trouvé ma prédication? Mais il se sentirait, on sait toujours s'en tirer. Il dit, oh, monsieur le pasteur, je vous en laisse l'entière responsabilité. Oui, on peut toujours s'en tirer. Je vous en laisse l'entière responsabilité. De ce qu'il a dit. Il a dormi. Bon. Vous savez, en plus de 50 ans de ministère, je pourrais vous en raconter des drôles, des vertes et des pas mûres. Mais... Parce qu'on fait des expériences. Et il y a beaucoup d'humour aussi dans le ministère. Et le 24e jour de ce mois, donc, les fils d'Israël s'assemblèrent pour un jeûne, et vêtus de sacs, et avec de la terre sur eux. Alors ça, c'est les coutumes orientales, n'est-ce pas? Vous voyez Job, quand il est dans le chagrin, il met de la poussière sur sa tête, etc. Et la race d'Israël se sépara. Parce que, vous voyez, il y a des moments où on peut se réjouir, mais il y a des moments où aussi il faut agir et il faut couper. Il se sépara de tous les fils de l'étranger parce qu'ils avaient les conséquences de leur inconséquence. Et il y a de la souffrance. Vous voyez, Abraham, quand il a écouté sa femme, alors que là, il aurait dû la reprendre, quand elle lui a dit, toi, le ciel t'aidera, puisque moi, je ne peux plus. Je ne peux plus te donner d'enfant, prends la petite servante. Hein, et puis, il a eu un fils. Mais un jour, il a dû s'en séparer. Alors, c'est douloureux, parce que Ismaël était quand même son fils. Et voilà qu'il a dû s'en séparer. Alors, vous voyez, là, il se sépara de tous les fils étrangers. Israël se sépara. Et ils se tinrent là, et ils confessèrent leurs péchés. Ça, c'est un signe d'un vrai réveil. Quand la parole est lue, et qu'on la reçoit dans son cœur, elle nous amène à la confession des péchés. Et vous retrouvez Actes, chapitre 2. Quand Pierre eut prêché la parole du Seigneur, les personnes ont dit, que ferons-nous, frères? Et il les exhorte à confesser leurs péchés et à être baptisés. Ils confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Parce que vous voyez, ce n'est pas seulement eux, mais ils ont eu déjà des mauvais exemples. Et ils se levèrent à leur place et ils lurent dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. On trouve toujours que les réunions sont trop longues. Là, c'était pendant un quart de la journée. Et pendant un quart, ils firent la confession et se prosternèrent devant l'Éternel. Pendant un quart de journée, il fallait se confesser. C'est qu'il y en avait un paquet. Hein. C'était vraiment la grande confession. elles se prosternèrent devant leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Bani, alors les noms sont donnés, se levèrent de l'estrade et ils crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Ils crient pour que le Seigneur libère ceux qui ont confessé leur péché. Et c'est bien aussi le ministère que nous devons avoir. Quand des âmes ont confessé leurs péchés, nous devons les délier. Ça, c'est le ministère que le Seigneur nous donne aux serviteurs de Dieu. Quand nous voyons que vraiment une âme a confessé son péché, nous devons la délier. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Si on se rend compte que ce n'est pas une confession véritable, que l'on ne veut pas abandonner ses fautes, on ne va pas leur dire « allez en paix », n'est-ce pas ? Mais on retient leur péché sur eux. C'est le ministère de la réconciliation que nous avons à exercer. Alors ils crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Quand on est au service de Dieu, on est engagé pour les âmes. On se sent responsable vis-à-vis des âmes. Et les Lévites, et les noms sont donnés, dirent « levez-vous et bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. » Une fois qu'on a confessé nos péchés, qu'on a reçu le pardon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bénir. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Et qu'on bénisse le nom de ta gloire, qui est haut élevé, au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel, en 1988. Tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qui est en elle. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Tu es le même, ô Éternel, Dieu qui a choisi Abraham. Elle a fait sortir d'Ur des Chaldéens, et lui a donné le nom d'Abraham. Il a changé de nom. Et tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis avec lui une alliance pour donner le pays du Cananéen, du Héthien, de l'Amoréen, du Phérézien, du Jébusien et du Girgasien pour le donner à sa semence, et tu as accompli tes paroles car tu es juste. Et tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge, et tu opéras des signes et des prodiges sur le Pharaon, et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, car tu savais qu'ils avaient agi avec fierté contre eux, et tu t'acquis un nom comme il paraît aujourd'hui. Et tu fondis la mer devant eux. Vous voyez, ils se rappellent tout ce que le Seigneur a fait. Et ils passèrent à sec par le milieu de la mer. Et ceux qui les poursuivaient, tu les jetas dans les abîmes comme une pierre dans les eaux puissantes. Ils s'inspirent du cantique de Moïse et de Marie du chapitre 15 de l'Exode. Et tu les conduisis de jour dans une colonne de nuée et de nuit par une colonne de feu afin d'éclairer pour eux le chemin dans lequel ils devaient marcher. Vous voyez, ils viennent de lire la parole, et cette parole, c'est toute cette histoire de Moïse, hein, et ils ont maintenant une prière, ils ont quelque chose à dire dans leur prière. Et tu descendis sur la montagne du Sinaï, et tu parlas avec eux depuis les cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites, et des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements et des statuts, et une loi par ton serviteur Moïse. Mais qui est-ce qui a prescrit cela? C'est Dieu, hein, pas Moïse. Et des cieux, tu leur donnas du pain pour leur faim, et tu leur fis sortir du rocher de l'eau pour leur soif. et tu leur dis d'entrer pour prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner. Donc, ils relisent tout cela, et ils ont relu tout cela, et maintenant ils peuvent en parler. Mais eux, savoir nos pères, agirent avec fierté et roidirent leur cou, et n'écoutèrent pas tes commandements, et refusèrent d'entendre, et ne se souvinrent pas de tes merveilles que tu avais faites pour eux. Mais ils roidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils établirent un chef pour retourner à leur servitude. Vous avez tout cela dans le livre des Noms. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, faisant grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et tu ne les as point abandonnés, même quand ils se firent, quoi ? Un veau de fond, et dire, c'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Vous rendez-vous compte à quoi on peut en arriver ? Vous ne dites pas, oh ça c'était Israël. Quand vous voyez des gens, quand on leur parle, et puis on leur demande comment ils vont, oh je vais très bien, oh tout sont du doigt, du bois, hein. Automatiquement, ils viennent, on leur pose une question, et ils ont peur parce qu'ils ont dit qu'ils étaient bien, que ça n'a plus. Hein. Alors, tout sont du bois, ou du fer. Et pas toujours un veau. Mais on est superstitieux. Mais quand ils se firent un veau de fonte et dire « C'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte » et qu'ils te firent de grands outrages, toi, dans tes grandes compassions. Voyez comme on apprend de nouveau à connaître notre Dieu. Hein. Quel père! C'est le père de l'enfant prodigue, vraiment, que vous trouvez là. Tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne se retira point au-dessus d'eux. Le jour pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu la nuit pour les éclairer et leur montrer le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta manne à leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Et tu les entretins, combien d'années ? 40 ans dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, c'est le chapitre 8 du Deutéronome, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur donnas des royaumes et des peuples, et tu leur partageas par contrées. Ils prirent possession du pays de Sion, du pays du roi de Hesbon, aussi bien que du pays d'Og, roi de Bazan. Et tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils y entreraient. Par ta grande bonté. C'est beau, hein? Mais la réponse, ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi et jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener à toi. C'est ça le ministère d'un prophète, c'est toujours ramener les âmes au Seigneur. Et ils te firent de grands outrages. Et tu les livras en la main de leurs adversaires qui les opprimèrent. Et au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu entendis des cieux, et selon tes grandes compassions, tu leur accordas des sauveurs, c'est le temps des juges, hein, qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. Vous voyez, ils ont relu tous ces passages que vous trouvez aussi dans les juges. Et quand ils avaient du repos, qu'est-ce qui arrivait ? Ils recommençaient à faire le mal devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis, et ceux-ci dominaient sur eux. Et de nouveau, ils criaient à toi, et toi, tu entendais des cieux, et tu les délivras maintes fois selon tes compassions.
et tu rendis témoignage contre eux pour les ramener à ta loi, mais ils agirent avec fierté. Ils n'écoutèrent pas tes commandements et péchèrent contre tes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Donc la vie, elle est dans l'obéissance, comprenons-le. Ils opposèrent une épaule revêche et roidirent leur cou et n'écoutèrent pas. Et tu différas à leur égard pendant beaucoup d'années. Et tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes. Mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Et vous savez, c'est pour aujourd'hui tout cela aussi. Et tu les livras en la main des peuples d'autres pays. Toutefois, dans tes grandes compassions, tu n'en finis pas avec eux et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu faisant grâce et miséricordieux. Et maintenant, notre Dieu, le Dieu grand, puissant et terrible, qui garde l'alliance et la bonté, que ce ne soit pas peu de choses devant toi, que toutes les peines qui nous ont atteints, nous, nos rois, nos princes, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis les jours des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour-ci. Mais tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous avons agi méchamment. Voyez, on reconnaît ses fautes. Et nos rois, nos princes, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi, n'ont pas été attentifs à tes commandements et à tes témoignages et que tu as rendu au milieu d'eux. Et ils ne t'ont pas servi dans leur royaume et dans l'abondance des biens que tu leur avais donnés et dans le spacieux et gras pays que tu avais mis devant eux, et ils ne sont pas revenus de leurs mauvaises actions. Voici, nous sommes aujourd'hui serviteur, donc esclave. Et quant au pays que tu donnas à nos pères pour qu'ils en mangeassent le fruit et les bons produits, voici, nous y sommes serviteurs. Et il rapporte beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Et il domine à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande détresse. Et pour tout cela, nous faisons une ferme alliance et nous l'écrivons. Il y a le renouvellement de l'alliance. Le renouvellement de l'alliance, c'est ça un réveil. On revient au Seigneur, mais d'une façon ferme, et même pour que ce soit bien prouvé, on l'écrit. On donne sa signature. Et à la position des sceaux se trouvaient nos princes, nos lévites et nos sacrificateurs. Alors, au chapitre 10, donc, c'est les signataires du renouvellement de l'alliance. Et à la tête de ceux qui apposèrent leurs sceaux furent Néhémie, le gouverneur donc, fils de Hakalia et Sédécias, Seraya, et puis il y a les noms de tous ceux, nous passons sur eux, n'est-ce pas, qui ont signé ce renouvellement de l'Alliance. Verset 28. Et le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, qui sont des serviteurs, donc des lévites, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour s'attacher à la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils, et leurs filles, tous ceux qui avaient de la connaissance et de l'intelligence, se joignirent à leurs frères, les principaux d'entre eux qui ont montré l'exemple, et ils s'engagèrent par exécration et par serment de marcher selon la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, et d'observer et de pratiquer tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, et ses ordonnances et ses statuts, et promettant que nous ne donnerions pas nos filles au peuple du pays, et que nous ne prendrions pas leurs filles pour nos fils, et que si les peuples du pays apportaient des marchandises, ou toutes sortes de grains le jour du sabbat pour les vendre, nous n'en prendrions pas le jour du sabbat. Parce que le sabbat avait été donné pour le repos du peuple et pour le culte qu'on doit au vrai Dieu, mis en un jour saint. Et que nous laisserions la terre en friche la septième année et remettrions toute espèce de dette. Vous voyez, il y avait même la terre qui devait se reposer. Alors, on est revenu à ces principes de base. Et vous savez, si on pouvait revenir à ces choses, eh bien, dans l'environnement, il y aurait bien des choses qui seraient changées. On a épuisé le sol. C'est vrai, parce que on ne suit pas les règles. Si nous lisions le Lévitique, il y a des enseignements dans le Lévitique qui paraît être un livre impossible pour beaucoup, on ne veut pas dire le Lévitique, eh bien, il y a des lois qui n'ont encore jamais été appliquées, mais qui seront appliquées quand le Seigneur régnera. Et il y aura une prospérité dans le monde entier. Il y aura du pain pour tout le monde. Et nous, nous établîmes, verset 32, des commandements, nous imposant le tiers d'un cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains à placer en rangée et pour l'offrande de gâteaux continuels, ça c'était pour le culte mosaïque, et pour les holocaustes, l'holocauste continuel, celui des sabbats, celui des nouvelles lunes, pour les jours solennels et pour les choses saintes et pour les sacrifices, pour le péché, afin de faire propitiation pour Israël. Tout cela, eh bien, pour nous, nous avons le sacrifice du Christ que nous rappellerons cet après-midi et qui a annulé tous ces sacrifices. Et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu. Et nous jetâmes le sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet de l'offrande du bois à amener à la maison de notre Dieu, selon nos maisons de père, à des époques fixes, chaque année, pour le brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Vous voyez, on organise. Et nous nous engageâmes à apporter les prémices de notre terre et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, chaque année, à la maison de l'Éternel et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi. Alors vous voyez, c'est toujours comme il est écrit dans la loi. Et à apporter les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Et nous apportons les prémices de notre pâte et nos offrandes élevées et le fruit de tout arbre, le mou, l'huile au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu et les dîmes de notre terre aux Lévites. Et eux, les Lévites, prélèveront la dîme dans toutes les villes de notre labour et le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand les Lévites prélèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme, et la dîme à la maison de notre Dieu. Même ceux qui vivaient au service du Seigneur devaient donner eux-mêmes la dîme dans les chambres de la maison du trésor, car les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront l'offrande élevée du blé, du mou, de l'huile, dans les chambres où sont les ustensiles du sanctuaire, et les sacrificateurs qui en font le service, et les portiers, et les chambres, et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Mais là, ce qu'il vous faudrait lire maintenant, c'est le livre de Malachie. Comprenez-vous? C'est pour bien comprendre tout ça. Ça, c'était ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Hein? Mais dans Malachie, nous voyons comment ils ont transgressé tout ça. On prend des décisions et on ne les tient pas. Oui, on apportait des sacrifices, mais c'était des bêtes boiteuses. Puis le Seigneur voyait cela. Comprenez-vous? Parce que le dernier livre, c'est celui de Malachie, eh bien, il correspond avec ce temps de Néhémie, enfin, ce qui s'est passé après Néhémie, mais dans la dernière période. Et donc, vous voyez qu'il ne faut pas seulement avoir des paroles et prendre des décisions, il faut tenir, il faut marcher avec le Seigneur. Et les chefs du peuple habitaient à Jérusalem, et le reste du peuple, chapitre 11, enfin, c'est la répartition, dans ce chapitre, c'est la répartition des habitants. Le reste du peuple jeta le sort pour qu'un sur 10 vint habiter Jérusalem, parce qu'il fallait peupler maintenant la ville, puisqu'il y avait les murailles. On avait reconstruit les murailles. Il fallait maintenant y habiter, et que 9 autres parties demeurassent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter Jérusalem. Or, ce sont ici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem, mais dans les villes de Juda habitèrent chacun dans sa possession, dans leur ville, Israël, les sacrificateurs, les Lévites, les Nétiniens, et les fils des serviteurs de Salomon. Et à Jérusalem habitèrent les fils de Juda et les fils de Benjamin, et leurs noms sont donnés. Nous n'allons pas les lire, quoique ce soit toujours intéressant. Et nous voyons au verset 12 que c'était eux qui faisaient les travaux de la maison. Le nombre en est donné. Et au verset 14, il est dit que c'était des hommes forts et vaillants. Puis il est parlé ensuite des Lévites, et leurs noms aussi sont donnés, ils étaient préposés sur l'ouvrage extérieur de la maison de Dieu. Il y a un ouvrage intérieur, puis un ouvrage extérieur, il y a des ouvriers pour l'extérieur de la maison de Dieu. Et puis, il y a des conducteurs spirituels, le chef, qui entonnait la louange à la prière, et leurs noms sont donnés. Dieu nous connaît tous par nos noms et connaît nos fonctions. Il y avait aussi les portiers. Et puis, verset 20, le reste d'Israël, les sacrificateurs et les lévites habitèrent dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Nétiniens habitèrent Ophel et Tsikla, et Gispa était préposé sur les Nétiniens, et il y avait des gens qui étaient préposés, donc, et il y avait les chantres aussi dans la maison de Dieu. Verset 23, car c'était le commandement du roi à leur égard, il y avait un fixe pour les chantres, pour chaque jour, ce qu'il fallait. On pourvoyait donc à leur besoin. Et nous pouvons passer plus loin au chapitre 12e. Nous voyons là le service des sacrificateurs, les noms sont donnés, les noms des Lévites, et puis aussi les chantres. Et à partir du verset 27e, c'était la dédicace de la muraille. Maintenant que le peuple était organisé, qu'on avait repeuplé au fond Jérusalem, comme nous l'avons vu, une personne sur 9 était maintenant à Jérusalem. Alors, il y a eu la dédicace de la muraille de Jérusalem. Je n'ai pas besoin de m'allonger là-dessus. Cette dédicace, on en a parlé hier soir. Verset 27, on envoya quérir les Lévites de tous leurs lieux d'habitation pour les amener à Jérusalem pour faire la dédicace, toujours avec joie. Vous retrouvez toujours cette joie. Avec les louanges et des chants, avec des cymbales et des lyres et des harpes. Et je vous ai montré que ils ont fait deux cortèges, un qui descendait par le sud, ils étaient sur la muraille, et puis l'autre par le nord, et ils se retrouvaient où? Au temple, n'est-ce pas? tous ceux qui avaient travaillé, chacun à la reconstruction de la muraille, se retrouvaient maintenant pour bénir Dieu qui avait permis la restauration de cette muraille. Verset 40, les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et moi et la moitié des chefs avec moi, et les sacrificateurs, etc. Et se sont donc retrouvés avec les chantres, et verset 43, ils offrirent ce jour-là de grands sacrifices, et se réjouirent, car Dieu les avait réjouis d'une grande joie. Notre joie, elle doit venir d'où? De Dieu. C'est Dieu qui nous réjouit d'une grande joie. Et les femmes aussi. Et les enfants se réjouissent. C'est pas seulement pour les hommes, la joie. C'est aussi pour les femmes et aussi pour les enfants. Et la joie de Jérusalem s'entendait au loin. Et alors nous arrivons maintenant, je vous laisse méditer vous-même sur ces portions, au chapitre 13. Ce jour-là, on lut dans le livre de Moïse. Vous voyez, c'est toujours par la lecture de la parole qu'on revient au Seigneur. On lut aux oreilles du peuple. Et il s'y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite n'entreraient pas dans la congrégation de Dieu à jamais, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des fils d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué contre eux à prix d'argent Balaam pour le maudire, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et il arriva que lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et c'est là que nous trouvons le secret d'Eliashib. Et avant cela, Eliashib, le sacrificateur, dont nous avons lu quelque chose au chapitre 3, établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de qui? De Tobija, lui avait préparé une grande chambre, et précédemment, on mettait dans cette chambre les offrandes de gâteaux, l'encens, les ustensiles, les dîmes du blé, le mou et l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites et pour les chantres et pour les portiers, ainsi que l'offrande élevée des sacrificateurs. Il fallait un local, hein? C'est nécessaire. Eh bien, il y en avait un qui était destiné à recevoir toutes ces choses. Et pendant tout cela, je n'étais pas à Jérusalem. Vous voyez, il nous dit que la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, il était retourné vers le roi. Mais pendant son absence, il y avait eu de nouveaux relâchements. Et au bout de quelque temps, j'avais demandé la permission de m'en aller. Et je vins à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, et nous avons déjà lu cela, vous l'avez relu vous-même, il a mis dehors tout ce qui appartenait à Tobija. Et puis alors il constate que, au verset 10, j'appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service avaient fui chacun à son champ, puisqu'on ne les soutenait pas, ils sont retournés à une occupation manuelle. Et je querellais les chefs, et je dis pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée. Vous voyez, on n'a plus l'intérêt pour la maison de Dieu. Et je les rassemblais, et je les fis demeurer à leur poste. Et tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et de nouveau, eh bien, il y a la bénédiction et les serviteurs peuvent vivre. Et j'établis sur les magasins chez Lémia, le sacrificateur et Tsadok, le scribe et Pédaïa, d'entre les Lévites, donc des gens responsables et qui ont à cœur que les choses se passent d'une façon normale. car ils étaient estimés, verset 13, fidèles. N'est-ce pas, c'est toujours ça. C'est des gens fidèles. Il faut trouver des gens fidèles. Et c'était à eux de faire les répartitions à leurs frères. On ne prend pas n'importe qui pour faire des répartitions. Il faut des hommes fidèles. Fidèles et capables, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, choisis des hommes fidèles et capables. Alors, verset 14, voilà de nouveau une de ces prières de Néhémie. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de ceci, il a vraiment essayé de donner à Jérusalem et à cette restauration, à ce réveil, une assise très solide. N'efface pas les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ce qu'il y avait à y observer. Parce que, au fond, il était très seul. Quand on a un travail à faire, mes amis, bien on est souvent seul. Et on a besoin d'un encouragement spécial de la part de Dieu. Ça peut vous paraître bizarre qu'il dise « Souviens-toi de moi ». Il y a des moments où on n'en peut plus, puis on ne se croit pas meilleur que les autres, et on a besoin de dire au Seigneur « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu ». Il l'a dit. Et verset 15, « Dans ces jours-là, je vis ». Il a les yeux ouverts, Il y en a qui ne voient rien. Mais lui, il voyait. Je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir, le jour du sabbat, et qui rentraient des gerbes, qui chargeaient sur des ânes, et aussi du vin, des raisins, des figues, et toutes sortes de fardeaux, et qui les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Alors je protestais le jour où ils vendaient des denrées, et les Tyriens y demeuraient, et ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et les vendaient le jour du sabbat, au fils de Juda dans Jérusalem. Voilà, on se laissait aller. Alors il n'y avait plus de jour sanctifié. Et je querellai les nobles de Juda et je leur dis, qu'est-ce que cette chose mauvaise que vous faites, profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères, de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville, et vous voulez ajouter à la colère contre Israël en profanant le sabbat, comme aujourd'hui, c'est le dimanche qui est profané. Et il arriva que lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'ombre, avant le sabbat, je commandai qu'on fermât les portes, et je commandai qu'on ne les ouvrit point jusqu'après le sabbat, et je plaçai mes jeunes hommes aux portes, afin qu'aucun fardeau ne fût introduit le jour du sabbat. Et les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent la nuit hors de Jérusalem, une et deux fois. Je les admonestai et je leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Donc ils les menacent. Depuis ce temps-là, ils ne sont pas venus le jour du sabbat. Il faut savoir et il faut avoir des convictions. Et je dis aux Lévites qu'ils eussent à se purifier et à venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Puis, de nouveau, il prie, souviens-toi de cela aussi en ma faveur, ô mon Dieu, et aie compassion de moi, selon la grandeur de ta bonté. Là, vous sentez qu'il est seul pour tenir pour la parole. Et voilà qu'on se dirait, ben maintenant, je vais aller me reposer. Et en ces jours-là aussi, je vis. Vous avez remarqué ces « je vis » Est-ce que vous voyez quelque chose? Ou bien est-ce que nous sommes devenus aveugles? Vous pouvez souligner les « je vis » de ce chapitre. J'appris, je vis. Je vis des Juifs qui avaient pris des femmes azodiennes, ammonites, moabites. Malgré tout ce qu'on avait dit, on continuait à transgresser la loi. Et forcément, ils avaient des enfants, alors... Leur fils parlait à moitié l'asdodien et ne savait pas parler le juif, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Je les querellai, je les maudis et je battis quelques hommes d'entre eux. Je leur arrachai les cheveux. Je ne vous dis pas de faire la même chose. Mais vous apprenez un peu à connaître Esdras, Néhémie.
Et je les fis jurer par Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-même. Et puis alors, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Salomon. Vous voyez, quand on revient, on a des exemples, et il leur donne comme exemple. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? Vous voyez, à 20 ans, Salomon a fait une prière merveilleuse à Dieu. C'est fantastique, il avait 20 ans. Il prie, il demande la sagesse, etc. Il ne demande pas la richesse. Dieu le bénit. Et il meurt à 60 ans, après avoir écrit les proverbes que celui qui persévérerait dans la loi prolongerait ses jours. Il n'a pas prolongé ses jours. Et qu'est-ce que vous voyez chez Salomon? Il s'est laissé aller, à cause de ses femmes, à un des cultes, à tous ces faux dieux, et même à sacrifier à qui? À Moloch. Vous rendez-vous compte, Salomon, qui avait combien de femmes? 1000. 300 d'une sorte et 700 d'une autre. Des concubines à n'en plus finir, et 300 femmes. Vous comprenez qu'on meurt à 60 ans après ça. Faut pas aller chercher plus loin. Ça me fait penser à ce campeur, parce qu'à Mahanaïm, quel camp de Dieu, on reçoit tout le monde, hein, on ne sait pas qui va venir. Et je me souviens toujours de ce soir-là où un gars est arrivé et puis il me dit, vous êtes le directeur des camps? Je dis oui. Vous savez, moi, j'ai 28 ans, mais je suis venu pour coucher avec toutes les femmes. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous savez, il faut me mettre dans sa peau, lui. Il ne connaît pas le Seigneur. Il vient dans un temps où il y a des jeunes filles, et il me dit ça. Je suis venu pour coucher avec toutes les femmes. Il est dit, réponds aux choses selon sa folie. Ne réponds pas aux choses selon sa folie. Dans le même verset, il y a les deux choses. Alors, il faut savoir comment je dois lui répondre. Alors, je crie à Dieu, ma petite prière des orteils. Je dis, qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, je le regarde avec un sourire. Puis, je dis, mon pauvre ami, tu auras bien à faire et tu seras vite épuisé. Et il n'a rien dit. Il s'est converti. N'est-ce pas? Et il ne faut pas... Et il faut voir à qui on a affaire. Bon, il pense ça. Mais voyez, l'histoire de Salomon, quand même. Salomon, roi d'Israël, verset 26. N'a-t-il pas péché en cela? Or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui. Et il était aimé de son Dieu. C'est vrai, ça, hein? Il s'appelait Yedidia, on l'a appelé Yedidia, aimé de Dieu. Et Dieu le fit roi sur tout Israël. Lui aussi, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Alors ne vous prenez pas pour plus que Salomon, plus fort que Salomon. Et nous écouterions, et vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèle à notre Dieu, en prenant des femmes étrangères? On dit, oui, mais les temps ont changé maintenant, on doit vivre avec son siècle, etc., on peut faire ce que l'on veut. Vous pouvez. Alors ne vous plaignez pas. Et l'un des fils de Jéhoiada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite, et je le chassais d'auprès de moi. Vous voyez que dans la sacrificature, il y avait eu la corruption. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ce sont des profanateurs de la sacrificature. Vous voyez, le mal vient de haut, et de l'alliance de la sacrificature et des Lévites. Parce qu'ils avaient signé eux aussi, et malgré qu'ils ont signé, ils ont transgressé. Alors, que le Seigneur nous montre qu'il n'y a pas de bien dans notre chair et que nous puissions être de ceux qui veillent et que nous ne profanions pas le nom du Seigneur.
et je les purifiai de tout étranger, et je fixai les fonctions des sacrificateurs et des lévites, chacun dans son service, et ce qui concernait l'offrande du bois et des époques fixes, et les premiers fruits. Souviens-toi de moi en bien, ô mon Dieu, c'est sa dernière parole. Et tout ce qu'on peut dire de tout cela, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, hein, et non pas de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et il aime que l'ordre soit partout. Mais je voudrais seulement souligner une chose. Dieu avait dit qu'il n'entrerait jamais dans la congrégation d'Israël, et ça c'était le commandement, des Moabites, des Ammonites ou des Cananéens. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est produit? Rahab, la Cananéenne, a été sauvé, parce que Dieu est au-dessus de ses lois. C'est lui qui a fait les lois, mais il peut toujours faire grâce. Il a fait grâce à une Cananéenne, puis il a fait grâce à qui? À Ruth, une Moabite. Et c'est quelque chose de merveilleux de penser que la grâce se glorifie vis-à-vis du jugement. Mais ne transgressons pas les commandements du Seigneur. De bénir sa parole. Tu nous as permis de parcourir ce livre de Néhémie, ô notre Dieu, et nous voulons te demander que ton esprit nous rappelle ce dont nous devons nous souvenir. Nous ne voulons pas être les esclaves de la lettre, car tu nous dis que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Et nous voulons te demander que nous puissions garder l'esprit de cette parole et que nous puissions vraiment vivre dans ta dépendance et nous souvenir qu'en effet tu es un Dieu d'ordre, un Dieu de parole, et que nous devenions nous aussi des hommes de parole, que nous soyons conséquents dans notre vie pratique, et si nous invoquons le nom du Seigneur, que ce nom soit honoré par nos vies, et que ce soit le grand moyen d'évangélisation actuelle, non pas des grands efforts comme quelquefois nous en faisons, mais une vie quotidienne à ta gloire, là où nous nous trouvons, une vie qui questionne le monde qui est sans espérance et sans Dieu, que nous puissions être là où nous sommes, temple de Dieu, des hommes et des femmes en Christ qui habitent dans la personne même du Seigneur et en qui le Christ lui-même habite pour ta seule gloire. Amen.